alto es un bismayo casado de Natal. Je réfute totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai essayé de combattre au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, se maîtriser pour trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à cette émission Parole aux auditeurs, l'émission de Radio Capi qui donne l'occasion à nos auditeurs de donner en direct leur point de vue sur le thème du jour. Et concernant justement notre thème du jour, nous débattrons avec vous, nos auditeurs, des violences sexuelles d'après un rapport du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Tchad. Pour le Sud Kivu, le nombre de nouveaux cas de viol enregistrés au cours de ce premier trimestre 2009 est relativement élevé en comparaison avec les données enregistrées en 2008. En effet, sur l'ensemble de l'année 2008, près de 2300 cas de viol ont été perpétrés et reportés par les acteurs médicaux. Alors que pour cette année, pour le premier trimestre 2009, déjà près de 1300 cas sont répertoriés. Voilà donc comment réagissez-vous face à cette situation et quelles sont les mesures d'urgence à prendre pour faire baisser rapidement ces violences sexuelles à travers le pays. Parole aux auditeurs, vous pouvez réagir aujourd'hui sur cette question, c'est en direct sur Radio Capi. Dans cette émission, nous aurons au téléphone le ministre des Droits Humains, Oupio Kafoura Wapol. Bienvenue à tous dans cette émission.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocati.net.
Bonjour monsieur le ministre. Monsieur le ministre n'est pas encore en ligne, mais nous avons déjà quelques auditeurs au bout du fil, notamment Kamango de Béni au Nord Kivu et Jean-Pierre de Kinshasa. Bonjour Kamango.
Oui, bonjour, monsieur Claude Kanga.
Est-ce qu'on peut connaître votre position sur cette question?
En fait, bon, je voudrais la présenter d'une façon la plus simple. En fait, si on parle de ce phénomène-là, c'est un truc qui est fondamental dans notre pays. Et donc, le phénomène de violence sexuelle semble être à la une, à l'est de la République démocratique du Congo. Car il est devenu, pour le moment, monsieur Claude, comme un fonds de commerce pour les gens, et un seul moyen de s'enrichir facilement et rapidement. Et aussi, une arme de guerre pour nos autres. C'est ce que nous vivons ici, chez nous, à l'Est.
Et pourquoi vous dites que c'est un commerce, si je vous ai bien compris, hein?
Oui, le fond de commerce, c'est parce qu'il y a des mamans, il y a des parents qui commencent à exposer leurs pièces, parce qu'ils savent que lorsque ce fait est déjà réalisé, on doit nécessairement en trouver quelque chose sur le plan financier.
Merci beaucoup d'être intervenu dans cette émission et bonne journée chez vous à Béni au Nord Kivu. On retient que c'est un front de commerce et c'est quelque chose d'actualité dans votre province. Jean-Pierre, vous êtes à Kinshasa. Bonjour d'abord. Et quelle est votre position? Est-ce que vous partagez la même position que celle du précédent auditeur?
Bonjour d'abord, monsieur le présentateur. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Mon avis est presque le même que celui de celui qui m'a précédé. Mais ici, je mets un accent en particulier sur le caractère de la prostitution, le caractère qui est lié à la prostitution. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis un certain temps, nous remarquons que nos sœurs, nos mamans, nos filles se comportent d'une manière un peu bizarre. Elles exposent certaines parties du corps qui sont pourtant réservées à l'intimité, dans un mariage naturellement, mais il y a des filles qui se permettent de s'habiller, elles sont presque nues. Donc toutes ces parties-là sont exposées. Vous savez, l'être humain, il est ce qu'il est, cela entraîne une certaine faiblesse, une certaine distraction, une certaine tentation, et on finit par succomber. Et
Monsieur Jean-Pierre, excusez-moi, mais lorsqu'on viole des bébés, est-ce que ça signifie que les bébés exposent aussi leur corps?
Ah, voilà. Ça, c'est, merci pour cette particularité-là. Là, c'est peut-être qu'on a été excité ailleurs et on va chercher, je ne le dis pas, je n'encourage pas ça, on a été excité ailleurs, mais on va chercher maintenant à assouvir sa soif, on va essayer de trouver la solution à son problème sur n'importe quoi. Il y a même des personnes qui s'accouplent avec des animaux. Donc, c'est passé en amont. ces personnes ont été excitées et ils vont chercher à trouver la satisfaction ailleurs.
Donc,
moi, je parle, je vous en prie.
Monsieur Jean-Pierre, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, parce qu'on vous reçoit interrompu, voulez-vous nous dire que s'il y a aujourd'hui près de 1300 viols, rien que pour le premier trimestre 2009, hein, qui sont déjà plus de la moitié des chiffres enregistrés au sud pour l'année 2008, donc s'il y a des viols, c'est parce que nos mamans ou bien nos sœurs se sont ont excité par leur habillement, vous voulez dire, ou par leur comportement, les violeurs, qui se retrouvent parmi des miliciens notamment.
Là, c'est un cas particulier. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu parler de cet aspect-là, qui est lié au manque de paix, qui est lié aux conflits armés, où vous avez des rebelles, où vous avez des soldats, des militaires qui sont engagés au front, qui débordent un peu dans ce sens-là. Donc là, c'est un aspect qui est lié à la situation de guerre, à la situation de paix, parce que, comme l'a dit tout à l'heure celui qui m'a précédé, c'est aussi une arme de démoralisation. Quand un homme normal a des visiteurs en uniforme chez lui à la maison, on tombe sur sa femme, on la viole, on tombe sur ses enfants, on les viole, sur ses filles, on les viole, ça démoralise, ça dérange la conscience. Ça produit un état d'esprit qui peut soit déborder, qui peut aller jusqu'à la violence aussi, mais c'est aussi une arme. Donc là, c'est en temps de guerre, à l'Est, c'est devenu une monnaie courante.
Voilà.
Mais dans ça où il n'y a pas de guerre, généralement, ce sont des femmes qui s'exposent, qui sont à la base de ces situations de violence.
Merci beaucoup, maître monsieur Jean-Pierre, pour votre contribution. Bonne journée chez vous.
À vous autant.
Parole aux auditeurs.
La réalisation me fait signe que le ministre des Droits humains, maître Oupio Kakurawapol, est déjà en ligne. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez d'écouter quelques auditeurs. Quelle est votre réaction de prime abord par rapport à leurs propos?
Je voulais déplorer d'abord le fait qu'il y aurait des parents qui exposeraient leurs enfants à la prostitution et qu'ils inciteraient à s'exposer aux actes de violence sexuelle. Si ceci est le cas, ça tombe sous le coup de la loi qui réprime les violences sexuelles, parce que parmi les prévisions de la loi, il y a notamment le fait pour toute personne, n'est-ce pas, d'inciter les enfants, les mineurs, à pouvoir être victimes de violences sexuelles. Et donc, il appartient, je crois, aux organes compétents, aux OPJ, au ministère public, de se saisir de questions pareilles. D'autre part, cela me pousse à conseiller et à suggérer qu'il y ait beaucoup plus d'action sur le plan de la prévention. Mmh. La prévention, ça suppose qu'il y ait des actions qui permettent, n'est-ce pas, à ce que les actes de violence faits à la femme, à la jeune fille ne se commettent pas. Donc si l'habillement, si des émissions à caractère notamment, je dirais, pornographique ou autre, qui incite à la commission de pareils actes se réalise. Il est bon que les autorités compétentes prennent des mesures, n'est-ce pas, pour éviter à ce que des gens qui soient tentés à commettre ces actes.
Monsieur le ministre, il y a aujourd'hui, selon les chiffres du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, rien que pour le premier trimestre 2009, au sud Kivu, on a enregistré près de 1300 victimes de viol. C'est plus de la moitié du chiffre de viol enregistré en 2008 et dans cette province du sud Kivu. Qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation du viol alors que la guerre est censée être finie dans une bonne partie de l'est du pays?
Oui, il y a d'abord le fait que de plus en plus les victimes commencent à briser le silence et donc à déclarer les actes ou les violences dont elles sont victimes. Et c'est ce qui est une bonne chose, en fait, parce que ça permettra une bonne prise en charge, à la fois sur le plan judiciaire et pourquoi pas sur le plan psychosocial et sanitaire, médical. Mais il est évident aussi, et c'est cela qui est très regrettable, qu'il y ait des actes qui se commettent, non seulement hier, parce qu'on pense hier que ce sont les hommes en armes, donc, à l'occasion des conflits qui sévissent dans cette partie du territoire national, mais aussi, pourquoi pas, des civils, des associations civiles qui s'adonnent aux violences. Et donc, je crois que le plus important, ces chiffres doivent nous inciter à beaucoup plus d'action. On doit agir, et c'est pourquoi nous disons que il est important que la justice, n'est-ce pas, se préoccupe de ces cas qui sont signalés. Et j'avoue que les mesures qui sont prises, notamment, j'étais récemment à Goma, et je crois qu'aussi il faut également les autorités judiciaires vont devoir sévir avec célérité pour décourager ceux qui seraient tentés encore de perpétrer les mêmes actes.
Oui, monsieur le ministre, on vous garde encore dans cette émission parce que je crois que les auditeurs ont beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, notamment sur ces violences sexuelles, notamment sur les mesures que prend le gouvernement justement pour sévir ces actes. On vous garde encore dans cette émission, monsieur le ministre, juste le temps pour nous de prendre Matou qui est Tamanono Katanga. Bonjour Matou, vous venez de suivre le ministre des droits humains, Oupio Kafoura Wafot. Votre réaction par rapport à ces propos. Matou, vous êtes en ligne?
Matou. Ma réaction. Allô?
Oui, allez-y, Matou, on vous écoute.
Oui, ma réaction, je vois que par rapport à la violence sexuelle, l'impunité existe au-dessus de toutes choses. Si on va bien, ce sont les mêmes auteurs, les gens qui sont au-dessus de la loi, les militaires, les policiers, qui sont en train de voler les violer les gens. Tout nous aimerions demander au ministre présent qui est dans la salle s'il pouvait prendre des dispositions sévères pour punir tous ceux-là qui sont auteurs de la violence sexuelle. Nous avons constaté bien que les gens ne sont pas punis. Si le monde déjà était puni, je pense que personne ne pourrait répéter le même bêtise que font les autres.
Merci beaucoup. Oui, rapidement.
On dit que si une fois t'es puni, on provoque tant d'autres. Parce qu'on ne voit nulle part où l'on punit les gens qui ont commis des violences sexuelles réellement.
Merci. Mais il n'y a pas aussi un problème d'arrangement entre les violeurs et les membres des familles qui acceptent un arrangement à l'amiable. On donne par exemple peut-être des chèvres, un peu d'argent.
Je ne crois pas qu'il y a d'arrangement. Ce sont des histoires qui le font par leur propre volonté.
Merci beaucoup, Matou. Vous êtes à Manono, au Katanga. Merci d'avoir contribué à cette émission. Bonne journée chez vous. Monsieur le ministre, votre réponse à la question de Matou.
Oui, effectivement, des cas qui sont déférés devant la justice et qui ont abouti à des condamnations. Donc, la lutte contre l'impunité pour les infractions relatives aux violences sexuelles est effectivement une problématique importante et je suis tout à fait d'accord avec l'auditrice de tout à l'heure.
L'auditeur.
Oui. À l'auditeur tout à l'heure, oui. Mais je sais que il y a quelques temps, si ma mémoire est bonne, à Kalemie ou à Kamina, il y a un procès assez célèbre qui aboutit à la condamnation des auteurs de violences sexuelles. C'est peut-être que nous ne faisons pas assez de publicité à ce sujet. Il y a tout récemment, grâce à notre action combinée avec celle de la MONUC à la province orientale, à l'Équateur, sur les gens qui a eu, il vient d'avoir une dizaine de condamnations, n'est-ce pas, des anciens Maïmaï qui ont commis des actes de violence sexuelle sur une trentaine de femmes.
Il s'agit notamment du colonel Thoms, qui a été condamné le 3 juin. Il a écopé, l'écrit, je crois qu'il a écopé d'une peine à perpétuité.
Oui, tout à fait, avec ses complices qui ont écopé une trentaine d'années également d'emprisonnement. Donc, mais effectivement, il faut dire qu'aujourd'hui, par rapport n'est-ce pas, à l'intensité d'infractions commises et au nombre de condamnations, il y a certains problèmes. Bon, il y a des raisons pour cela, les insuffisances au niveau, n'est-ce pas, de notre service judiciaire, quant au nombre de magistrats, quant à la distance qu'il y a à parcourir entre la gestion compétente et les lieux, n'est-ce pas, des commissions des infractions, donc ça pose problème. Mais le gouvernement étant conscient de ces questions, applique quand même des mesures, d'abord pour demander aux juges compétents d'accélérer les procédures en cours pour que toutes les personnes qui sont aujourd'hui poursuivies soient condamnées, effectivement. Deuxièmement, qu'il y ait des audiences foraines, c'est-à-dire que des juges puissent se rendre vers, n'est-ce pas, les entités ou les lieux où, notamment il y a les tribunaux de paix pour que les détenus du chef de fraction de violence sexuelle soit condamné.
Mais monsieur le ministre, il y a notre auditeur de Manon, on pense également que les policiers et les militaires qui violent se comportent comme des gens qui sont au-dessus de la loi. Est-ce que vous le confirmez?
Non, personne n'est au-dessus de la loi. Ça c'est clair. Mais nous disons qu'il y a des problèmes. Premièrement, il appartient aux victimes de pouvoir saisir les juridictions compétentes. Deuxièmement, il revient aux autorités judiciaires compétentes, n'est-ce pas, de poursuivre et de condamner. Et j'ai dit qu'il y a effectivement un certain nombre de problèmes liés au fonctionnement de la justice. Nous avons un grand nombre de détenus pour une prison de qui sont poursuivis pour une infraction de violence sexuelle et qui attendent d'être jugés. Et des mesures ont été prises. Et je dois même signaler d'ailleurs que le ministre de la Justice, mon collègue de la Justice, est sur un dossier qui va aboutir, n'est-ce pas, à des procès, je dirais même des procès exemplaires dans chaque province. Et on va organiser des audiences foraines pour, n'est-ce pas, traiter tous les cas qui sont en cours, de manière à ce que, effectivement, la population sente que l'impunité en matière de violence sexuelle est révolue. Et donc, c'est une question de temps, mais pendant que je parle, il y a des procès qui se déroulent dans plusieurs tribunaux et des condamnations sont prononcées.
Où c'est? Dans quelle province?
Je donne le cas du Nord Kivu, par exemple, où j'étais à Goma. Vous allez devant les juridictions militaires, vous apprendrez combien de condamnations sont prononcées chaque jour.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous garde encore dans cette émission. Des musiques.
On y va, c'est parti.
Des jingles.
Ah, ça a déjà commencé.
Du rire.
On est à l'hôpital central. Ambulance nationale.
C'est Roundup. Tous les samedis et dimanches à 13h20, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Vous venez peut-être de prendre en cours cette émission Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, l'émission qui donne la parole en direct à nos auditeurs, d'où qu'ils soient. Je vous en rappelle le thème, selon un rapport du Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires, OCHA, pour les trois premiers mois de 2009, près de 1300 victimes de cas de viol ont été déjà enregistrées dans la province du Sud Kivu. Ce chiffre représente plus de la moitié de ces lieux enregistrés dans cette province pour toute l'année 2008. Comment réagissez-vous face à cette situation et quelles sont les mesures urgentes à prendre pour faire baisser rapidement ces violences sexuelles à travers le pays? Parole aux auditeurs vous fait réagir aujourd'hui sur cette question, comme je le disais en direct sur Radio Capi. Et dans cette émission, nous avons comme invité le ministre des Droits Humains du gouvernement central, Maître Oupio Kakoura Wakol. Si vous voulez réagir en direct, appelez-nous au 081-99-77-800. Appelez-nous et nous vous rappellerons tout de suite après. Même si vous n'avez pas d'unité, vous pourrez intervenir. Envoyez vos SMS au 09-98-999-222, 09-98-999-222 et par Internet, envoyez vos réactions à l'adresse PA comme parole aux auditeurs @radiookapi.net. Gaston, vous êtes à Béni dans la province, Gaston de Bena. Vous êtes, je pense, à l'État au Kasaï occidental, c'est ça? Gaston, vous êtes en ligne? Gaston, est-ce que vous êtes en ligne? Apparemment, Gaston n'est pas en ligne. Nous allons nous rendre à Kikwito, Bangulu, à 500 km de la ville de Kinshasa, d'où intervient Blaise. Blaise, bonjour, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, monsieur le journaliste.
Allez-y, quel est votre avis par rapport à cette situation? Vous venez de suivre le ministre des Droits Humains et vous venez aussi, vous avez, je l'espère, suivi aussi d'autres auditeurs. Réagissez par rapport à leurs propos.
Bon, je venais de suivre le ministre. Vraiment, je suis peu satisfait de sa réaction concernant ma première préoccupation. C'était pour l'impunité, hein, parce que beaucoup de prévenus vraiment ne méritent pas la peine. Ils sont impunis, c'est pourquoi il y a l'augmentation et il y a de plus en plus de méfaits graves pour cette violence, donc pour la violence sexuelle. Et la deuxième préoccupation est celle-ci.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, ma deuxième préoccupation est celle-ci. Et beaucoup de ces gens qui participent et qui sont des prévenus surtout, et beaucoup de cas, prenons par exemple de l'Est, ça, on a beaucoup de cas, mais ça reste...
Voilà, on a quelques petits problèmes avec Blaise de Kikwit, j'espère que la réalisation va le récupérer. J'ai devant moi quelques mails que je vais devoir lire, et peut-être que le ministre des Droits Humains, Maître Oupio Kakura Wapol, qui est avec nous dans cette émission au téléphone, va peut-être répondre à ses auditeurs qui nous écrivent de partout. Il y a Thomas de l'Université de Liège, de l'Université Libre de Bruxelles, ULB, il dit ceci, on a longtemps pensé que la guerre constituait la cause du phénomène, mais elle n'en fournit qu'un facteur permissif en termes d'occasion. En effet, les événements obligent à chercher les causes ailleurs, car ces actes de violence se commettent même dans des zones moins troublées comme au Bandundu et sont commis par des personnes pourtant responsables. Il y a Georges de Kisangani dans la province orientale qui pense que dans le but de diminuer ou de mettre fin aux actes de viol ou violences sexuelles en RDC, je voudrais me résumer comme ceux qui font intensifier le processus de sensibilisation de la population à travers les médias et autres moyens de communication, que les parents prennent leurs responsabilités dans l'encadrement correct de leurs enfants et que l'État congolais continue à punir sérieusement les violeurs et que la justice fasse son travail avec équité. Que le chef de l'État se pense aussi sur l'un de ces chantiers. Voilà, il parle de la création d'emplois. La suite est dans une poignée de secondes.
Parole aux auditeurs.
Voilà, comme le ministre n'a pas beaucoup de temps, je vais encore lire quelques SMS pour qu'il puisse réagir à tous ces mails. Machini de Manono Katanga se demande pourquoi la mesure frappe souvent les garçons, or ce sont des filles qui sont à la base des violences sexuelles. Ça c'est son avis. Robert de Bukavu Sud qui vous pense que la crise économique ou politique ne constitue pas la cause principale de viol et autres fléaux en RDC ou ailleurs. Sans doute la crise morale est-elle à la base de ceci. Homo homini lupus, dit-on. Voilà, l'homme est un loup pour... l'homme est un loup pour les autres. Voilà ce que ça signifie. Oxygène de Walika dit ceci. Je vous apprends qu'il y a de ces filles qui cherchent elles-mêmes à être violées de par leur habillement. Votre réaction, monsieur le ministre des Droits Humains, Maître Oupio Kakura?
Oui, moi je voudrais dire que on ne discutera pas de la cause ou des effets ou de violences sexuelles. Ce qui est évident, c'est que les conflits armés, notamment à l'est du pays, ont donné lieu, n'est-ce pas, à un phénomène nouveau dans ce pays, de violences sexuelles à grande échelle. Et ça, c'est évident. Il est aussi évident et vrai aujourd'hui que dans les territoires qui n'ont pas été touchés par la guerre, de plus en plus, on constate également des cas de violence, y compris à Kinshasa. Donc, c'est un phénomène qui doit être appréhendé de manière globale pour une réponse efficace. Et donc, j'ai dit qu'il y a un triple volet sur lequel on travaille, ou on doit travailler aujourd'hui. Le volet prévention, qui implique beaucoup de mesures d'éducation civique, d'éducation morale, qui engage les familles, qui engage les hommes de culture, les médias. Pourquoi distiller à longueur de journée sur nos chaînes de télévision des danses obscènes, par exemple? Pourquoi, comme on l'a dit, effectivement, n'est pas veiller à une certaine tenue, un certain habillement qui effectivement n'exposerait pas beaucoup nos jeunes filles à tout ce que nous déplorons sur le plan de la prévention. Mais il y a heureusement sur ce point une grande campagne qui se mène aujourd'hui, le gouvernement est impliqué, nos partenaires comme l'UNICEF ou des privés Videy, donc un grand mouvement qui implique les femmes semaine, qui ont décidé de briser le silence. Et il faut, justement, pour que le service judiciaire agisse, dénoncer. Donc les femmes, les victimes, et même les hommes, parce qu'il y a aussi des viols qui sont commis sur les hommes. Hein, il faut briser le silence, il faut parler, oui. Il faut que la justice soit saisie. Ça, c'est la première chose. Deuxième volet, le volet répressif du judiciaire, la réaction pénale. Et sur ce plan, nous disons que la politique de tolérance zéro est en marche. Et au fur et à mesure que la réforme du service judiciaire se met en marche et que l'efficacité attendue est assurée, les choses vont marcher. Mais déjà, des procès exemplaires sont en train d'être organisés et ils le seront davantage. Ces procès vont concerner toutes les personnes impliquées, quels que soient les rangs. Alors finalement, au bout du compte, il y a le volet, je dirais, réparation. À ce niveau également, il faut voir comment les victimes peuvent bénéficier des réparations attendues, comment intégrer socialement, économiquement les victimes. Parce que finalement, il y a aussi la pauvreté. Il faut autonomiser les femmes, notamment les victimes femmes, parce qu'ils sont malheureusement les groupes vulnérables. Il faut là aussi agir. Donc, c'est sous ce triple volet qui doit se situer la réponse la plus efficace à ce phénomène.
Oui, monsieur le ministre, la communauté internationale avait réuni près de 25 millions de dollars pour lutter contre justement les violences sexuelles. Comment avez-vous, au niveau du gouvernement, géré cet argent?
Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est le gouvernement qui a géré ou ce sont les partenaires avec les associations qui les sont affiliées qui gèrent. Ce que moi, je note, c'est qu'effectivement, il y a eu des moyens qui ont été mobilisés. Ces moyens ont permis une grande sensibilisation, une prise en charge à un certain niveau, mais qu'aujourd'hui, il faut encore des moyens. Il faut plus de coordination, plus, n'est-ce pas, de synergie, hein, quant aux interventions qui doivent, n'est-ce pas, être intensifiées. Et au niveau du gouvernement, nous pensons qu'une coordination beaucoup plus intense est nécessaire. C'est pourquoi il y a un projet de mise en place d'une agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à l'enfant comme mécanisme, n'est-ce pas, de coordination pour faire en sorte que les aides, les interventions, n'est-ce pas, de nos partenaires, tout comme celles émanant du gouvernement, soient mieux, n'est-ce pas, utilisées au bénéfice des victimes.
Merci. Parce que, oui, allez-y.
Oui, donc j'ai dit que ce que je peux dire pour terminer ma contribution à cette émission d'aujourd'hui, c'est qu'il y a la volonté ferme du gouvernement, mais aussi, il faut le mentionner, du président de la République, qui lui est conscient, n'est-ce pas, est préoccupé par cette question, en décrétant lui-même, n'est-ce pas, la lutte contre l'impunité et la tolérance zéro à la matière. Et donc, au niveau aussi bien des ministères impliqués, au niveau du gouvernement, que ce soit le ministère des Droits humains, le ministère de la Justice, le ministère des gens, familles et enfants, nous développons des stratégies de concert avec nos partenaires traditionnels, que ce soit le PNUD, l'UNICEF et les autres organisations de défense des droits de la femme, de l'enfant et internationaux comme nationaux, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus pas d'efficacité dans la lutte contre les violences sexuelles, de manière à ce que, effectivement, si le phénomène ne peut pas être éradiqué,
mais qu'il soit réduit sensiblement au fur et à mesure pour qu'effectivement qu'on ne voit pas la femme congolaise tout simplement sous le prisme de la femme violée, mais une femme, n'est-ce pas, qui participe aux grandes n'est-ce pas décisions de vie, qui participe pleinement, n'est-ce pas, à la gestion et de notre pays.
Monsieur le ministre, s'il vous plaît, peut-être une dernière question avant de vous libérer, mais est-ce que les auteurs des viols vont vraiment purger leur peine quand on sait par exemple que il y a 5 condamnés du procès de viol pour viol massif hein, à Somombo dans l'Équateur qui se sont évadés et on n'a plus de nouvelles d'eux. Et souvent, des fois, quand des gens sont condamnés comme ça, ils vont en prison, après quelques temps, ils sont libérés. Est-ce que vraiment les gens qui seront condamnés vont purger leur peine? Quelle garantie accordez-vous aux victimes?
Bon, la garantie, la meilleure, c'est la réforme ou la justice telle qu'elle est menée actuellement, et cette réforme va jusqu'à la restauration, n'est-ce pas, de notre service pénitentiaire. Le cas de Songombo est déplorable. On a engagé un procès qui est exemplaire, qui a abouti à la condamnation de beaucoup de d'auteurs, n'est-ce pas, de ces viols massifs. Mais malheureusement, compte tenu de la déficience de nos établissements pénitentiaires, eh bien, les condamnés se sont évadés. Donc, ce sont des cas qu'il ne faut pas souhaiter, parce que ils découragent, n'est-ce pas, ils annihilent même, je dirais, tout l'effort qui est entrepris par toutes les personnes qui sont impliquées. Mais il est clair, et j'aimerais insister là-dessus, que les viols ou les infractions de violence sexuelles sont des crimes contre l'humanité. Ils sont des crimes de guerre à la limite. Et que donc, ce sont des cas qui échappent, n'est-ce pas, à toute mesure d'amnistie, et les auteurs doivent être poursuivis.
Même s'il y a tentative d'arrangement entre la famille et la famille de la victime et l'auteur du viol, est-ce que même s'ils se sont entendus, l'auteur du viol donne un peu d'argent et donne une chèvre à la famille de la victime, malgré cela, est-ce que les tribunaux peuvent toujours se saisir de ces cas?
Mais bien sûr, parce que la loi sur les violences sexuelles, qui réprime les violences sexuelles, interdit justement les arrangements à l'amiable, étant donné la gravité de l'infraction, étant donné que c'est un phénomène qui touche à ce qu'il y a d'essentiel. Les femmes nous ont dit que c'est la ressource la plus précieuse, n'est-ce pas, qu'elles peuvent avoir. Et donc, les arrangements en famille, ou tout autre arrangement en dehors de la justice n'est pas permis. Donc, lorsque les juges sont au courant d'un cas comme ça, quel que soit l'arrangement, il doit poursuivre. Donc, il appartient encore une fois à la victime, j'ai dit. La victime, parce que généralement, c'est le silence qui empêche la réaction pénale. Donc, les arrangements sont interdits par la loi et tout cas de violence sexuelle doit être judiciairement sanctionné.
Mais les victimes sont parfois intimidées, hein, surtout si ce sont des hommes en armes qui ont violé, parce qu'ils sont parmi les gens qui violent le plus, les hommes en armes.
Oui, c'est vrai. C'est pourquoi nous sommes appelés à mettre en place des mécanismes à la fois pour la protection des victimes, mais aussi la protection des témoins, ou des personnes qui seraient amenées à dénoncer, n'est-ce pas, ces genres de pratiques devant la justice.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur Oupio Kakoura.
Oui, c'est moi qui vous remercie.
Parole aux auditeurs.
Vous êtes en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Bonjour d'abord. Votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre?
Bonjour, Claude de Tesseur, j'ai depuis la ville de Bandaka.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, en matière de violences sexuelles, Claude, nous avons souvent deux causes que nous oublions. La première, c'est la criminalité, et la seconde, qui venait d'évoquer notre auditeur Jean-Pierre de Kinshasa, qui voulait de l'habillement. On a souvent l'habitude d'oublier la deuxième cause de violences sexuelles, hein, qui est l'habillement. Vous verrez avec moi que ces derniers temps ici, les mamans, les jeunes filles sont confrontées à ça. Ils exposent leur partie du corps qui sont à l'extérieur, qui excitent quand même les garçons. Ça veut dire qu'on est quand même des images dans les cinq fonctions. Alors, quant à moi, comme piste de solution, je voulais demander poser au ministre Marguerite, il est parti, qu'il prenne des dispositions à ce qui concerne la deuxième cause de violence sexuelle qui est l'habillement. Il ne peut pas traiter la conséquence au lieu de se baser sur la cause qui est le mauvais habillement des jeunes filles qui pousse les jeunes garçons, les hommes à faire la sexuelle. Ce n'est pas tellement la faute aux garçons. Comme nous venons de le dire, notre auditeur de Walikal, que les jeunes filles et les filles sont elles-mêmes la cause de la violence sexuelle. On ne peut pas condamner totalement les garçons ni les hommes, mais les filles aussi sont elles-mêmes la cause de ces violences-là. Ils peuvent, les mythes peuvent aussi leur produire du conseil à leur habillement, monsieur le journaliste.
Mais l'habillement dépend d'une province à une autre. Dans une province, on trouvera que c'est mauvais pour une femme de s'habiller en pantalon. Dans une autre province, c'est normal, ou dans un autre pays. Mais finalement, est-ce que c'est là justifie vraiment que les garçons violent des filles ou bien que les hommes violent des filles ou des femmes tout simplement à cause de leur habillement? Est-ce que ce n'est pas une justification qui tente de justifier quelque chose qu'on ne peut pas justifier?
Non, monsieur le journaliste, vous comprenez avec moi que nos hommes, nos stars qui écrivent, qui incitent les jeunes filles à s'habiller d'une mauvaise manière. C'est la base. Ce n'est pas seulement une province, n'est pas différente. L'habillement d'une province n'est pas différente à une autre. Si vous pouvez prendre, nous comme nous sommes à l'intérieur, nous devons normalement copier l'habillement. Les jeunes filles qui sont à l'intérieur veulent copier l'habillement de ceux qui viennent de Kinshasa. Mais vous verrez avec moi que l'habillement des Kinoises, les Kinoises prennent l'habillement auprès des stars, des musiciens. Ils s'habillent en exposant leur corps, Alors les hommes ne sont pas aussi la raison de faire ça, parce qu'ils sont quand même déjà, leur sens fonctionne.
Merci beaucoup.
Ils sont à précaution, que les ministres prennent la précaution pour finir avec ces mauvais habillements. À ce moment-là, on verra d'où proviendra encore la violence sexuelle.
Merci beaucoup, Serge, d'être intervenu depuis Mbandaka dans l'Équateur, mais beaucoup d'auditeurs veulent également intervenir comme vous. C'est le cas de Gaston qui est à Benaleka, un village du Kasaï occidental. Bonjour, Gaston. Est-ce que vous pensez que l'habillement est à l'origine des viols, même à l'est du pays? C'est ça ma question.
Oui, merci. Je vous écoutais, je suivais tout ce que les intervenants veulent donner comme explication. Moi, je suis aussi d'accord pour vous dire que c'est l'habillement est aussi la cause des violences sexuelles, parce que c'était dimanche, où moi-même j'étais ici, et le lundi où j'étais ici, nous avons vu des filles qui étaient habillées en pantalon, à moitié nues, torse nues, c'était les enfants, presque les enfants qui les suivaient, en train de rire, le maman qui regardait, parce que nous sommes, c'est ça, c'est une première chose. Les filles sont venues de Kinshasa, ils disent que si vous êtes au village, mais nous portons ça à Kinshasa, et ça ne fait pas ça, et c'était encore rigolo. Quand les hommes sont en train de voir comme ça, il paraît qu'ils peuvent aller attendre ces filles, même là où il n'y a pas de gens, pour les attraper là, et on va parler encore de violences sexuelles. Et on pouvait aussi insister à notre gouvernement qu'on insiste, si quand une femme est habillée en pantalon, vous trouverez que comme il est vraiment formé, les derrière, les cuisses, ça ne convient pas dans des pantalons. Aussi longtemps que nous sommes des Africains, devons porter des pains pour des femmes et les pantalons. Même la Bible interdit à une femme de porter des vêtements d'hommes. Et c'est aussi que c'est la cause aussi de violences sexuelles.
Voilà. Vous voulez dire par là que vous justifiez cette pratique à cause de l'habillement?
Je suis encore d'accord. Il y a ce qu'on peut encore ajouter, ce qui pousse aux autres. L'habillement peut être aussi à la base des violences.
Merci beaucoup d'être intervenu à partir de Bénin, l'État au Kasaï occidental, Gaston.
Parole aux auditeurs.
Michel, vous êtes à Kisangani, dans la province orientale. Êtes-vous d'accord avec Gaston qui venait d'intervenir de l'État? J'aimerais aussi que les dames, les femmes puissent intervenir pour défendre quand même aussi leur cause dans cette émission où on les accuse à cause de leur habillement. Michel, vous êtes à Kisangani, à vous la parole.
Oui, mais certainement, merci Radio Capi, merci à tous les auditeurs qui nous suivent maintenant à partir de Radio Capi. Je suis parfaitement d'accord de ce que l'intervenant vient de dire. En tout cas, ce qui est vrai, l'habillement des femmes favorise aussi l'attirance de nous les hommes pour qu'il y ait aussi de ces actes-là de violences sexuelles. Ce qui est vrai, je partage avec vous, mais selon mon avis, je vois aussi bibliquement, ce sont les accomplissements bibliques qui s'accomplissent. Selon nous qui passons chaque fois à l'église, bon, je pense bien que le pasteur, que ce soit le prêtre, tous les religieux nous disent que l'état de la paix, les signes de l'accomplissement de l'état de la paix sont là. Par exemple, si nous voyons Matthieu 4, 4 à 19, tous ces signes s'accomplissent à nos jours, y compris aussi cet acte-là de violence sexuelle.
Mais que dit finalement la Bible à propos des violences sexuelles? Est-ce qu'il y a des versets spécifiques qui en parlent? Moi, je n'en connais pas.
Bon, certainement, je dis que les gens, selon Matthieu 4, si nous partons plus loin, les gens seront vraiment des immoraux. Ils vont commettre des actes qui ne seront pas acceptables au milieu des gens. Voyez-vous que parmi les, si nous voyons ce qui se passe, un vieux, par exemple, qui a 40 ans, il parvient à aller faire des rapports sexuels avec une fille de 9 ans. Si nous voyons la réalité des choses, est-ce que cette fille-là de 9 ans, elle connaît faire tout ça? Nous, elle n'a pas qu'on âge de faire des rapports sexuels.
Michel, est-ce que cette prophétie ne concerne que la République démocratique du Congo ou bien elle concerne tous les autres pays du monde? Parce que apparemment ici, c'est quand même exagéré ce cas de viol.
Bon, chez nous, les viols sont exagérés parce que vous savez, nous venons de sortir dans un pays qui était en guerre, qui était en conflit. Il y avait beaucoup de groupes armés, il y avait tout ça de violences sociales qui sont commises dans tous ces partis qui étaient en guerre, même dans les partis gouvernementaux. Alors, pour moi, selon moi, je vois que tout ça, ce sont des accomplissements bibliques. Parce que nous, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il y ait tous ces histoires qui arrivent maintenant.
Mais Michel, si je vous ai bien compris, donc vous acceptez, vous êtes d'accord avec les viols, tout simplement parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des gens immoraux.
Bon, je suis d'accord avec la Bible parce que...
Non, je demande si vous êtes d'accord avec tous ces gens qui violent des femmes, simplement parce que la Bible dit qu'au temps de la fin, il y aura des personnes immorales.
Oui, certainement, je suis d'accord avec ça parce que...
Avec les violeurs, vous êtes d'accord avec les violeurs?
Ben, les violeurs ne font pas de leur propre idée, ils sont conduits par les mauvais esprits.
Donc vous condamnez ces mauvais esprits, si je vous ai bien compris?
Bon, je condamne ceux qui le font parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu, ils ne suivent pas l'accomplissement des prophéties, ils ne suivent pas l'état biblique, c'est ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir appelé depuis Kisangani dans la province orientale, et portez-vous bien.
Radio Capi, c'est le point sur l'économie. La vie des entreprises, les matières premières et les acteurs du secteur économique du Congo vous fixent rendez-vous de lundi à vendredi à 18h15, heure de Kinshasa, sur Radio Capi. Écho d'économie, le rendez-vous économique de la semaine.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous venez de prendre en cours cette émission Parole aux auditeurs, cette émission qui vous permet d'intervenir en direct sur notre thème du jour. Je vous en rappelle le thème. Selon un rapport du Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires, OCHA, pour les 3 premiers mois de l'année 2009, près de 1300 victimes de cas de viol sont déjà enregistrées au Sud-Kivu, soit plus de la moitié du chiffre enregistré dans cette même province pour toute l'année 2008. Donc, il y a augmentation des viols dans cette province. Comment réagissez-vous face à cette situation et quelles sont les mesures urgentes afin de pouvoir faire baisser rapidement ces violences sexuelles à travers le pays? Parole aux auditeurs. Votre émission vous fait réagir aujourd'hui sur cette question en direct sur Radio Capi. Et dans cette émission, je rappelle que nous avions reçu le ministre des Droits Humains, Maître Oupio Kakurawapol, qui nous a déjà quitté parce qu'il est occupé en ce moment. Et si vous voulez réagir en direct, appelez-nous au 081-99-77-800, 081-99-77-800. Appelez-nous et nous vous rappellerons tout de suite après. Envoyez-nous vos SMS au 09-98-999-222, 09-98-999-222 et par Internet, envoyez vos réactions à l'adresse pa.parole@radiookapi.net. Je rappelle que Maître Oupio Kakurawapol, le ministre des Droits Humains qui est intervenu dans cette émission, doit en principe, si mes informations sont vraies, se retrouver au Parlement, au niveau du Parlement. Merci beaucoup au ministre des Droits Humains d'avoir bien accepté de participer à cette émission et ainsi de répondre à quelques questions de nos auditeurs malgré ces multiples son emploi du temps chargé. Dany, vous êtes à Lubumbashi, au niveau de la province du Katanga. Je vais vous lire quelques chiffres, Dany, pour l'année 2008. Il y a eu au Nord Kivu près de 4820 cas d'incidents signalés par le comité provincial de lutte contre les violences sexuelles, donc 4820 cas de viol. Dans la province orientale, dans la même année 2008, on a signalé 1403 cas de viol. Au sud Kivu, on vous a donné les chiffres pour l'année passée. Voilà, votre réaction, est-ce que le viol, finalement, c'est un phénomène qui semble de plus en plus congolais? Est-ce que je me trompe? Parce que son ampleur est quand même assez grande ici en République démocratique du Congo. Comment l'expliquer? Dany? Dany, vous êtes à Lubumbashi, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, monsieur.
Vous avez suivi ma question?
Non, je ne vois pas la question.
Je vous ai donné quelques chiffres de cas de viol enregistrés en 2008. Au Nord Kivu, il y a eu 4820 cas de viol. Dans la province orientale.
Il y avait
4800 cas de viol. Dans la province orientale, 1403 cas de viol. Au Katanga, chez vous, d'où vous intervenez, il y a eu 1770 cas de viol. Finalement, est-ce que le viol devient un phénomène purement congolais?
Oui.
Et comment l'expliquez-vous?
On peut s'expliquer ceci. Vous m'écoutez bien?
Oui, on vous écoute, mais finalement, comment expliquer que les viols deviennent de plus en plus fréquents ici en République démocratique du Congo?
On peut dire ceci, les viols... Et dans notre pays, qu'est-ce qu'on peut dire, ça provient du...
Dany, décidément, on a des problèmes avec vous. Merci de nous avoir contacté depuis Lubumbashi au Katanga. Siméon, vous êtes à Kinshasa. Je vous pose la même question.
Oui, si j'ai bien suivi, il y a 1300 cas.
Oui, au Nord Kivu, en 2008, on a enregistré 4820 cas de viol, reportés par le comité provincial de lutte contre les violences sexuelles. Dans la province orientale, on en a signalé près de 1400 cas de viol. 1400. Et puis, dans le Katanga, 1170 cas de viol ont été reportés par la synergie de lutte contre les violences sexuelles de janvier à novembre 2008. Finalement, est-ce que le viol devient un phénomène purement congolais, de par son ampleur?
Oui, de par son ampleur, là, je le constate, ça devient un phénomène purement congolais. Je me dis souvent, le ministre des Droits Humains, est-ce que ce n'est pas la démission des pouvoirs publics? Parce que, de par les provinces citées sur ces investigations, la partie est plus contaminée pour ce phénomène-là. C'est pas parce que les femmes sont devenues plus fragiles, peurées avec tout ce qu'on a eu comme guerre là-bas, ou bien pas, je n'ai pas les statistiques de Kinshasa. Mais moi, plutôt, je me dis, c'est un phénomène qui risque de contaminer toute la couche de la population. Je proposerai ce que le gouvernement, dans l'avenir, pourquoi ne pas instruire une police anti-violence contre les femmes, comme on l'a fait dernièrement avec les Kuluna. Parce que maintenant, nous voulons indiquer le phénomène Kuluna, mais le phénomène violence faite à la femme prend des plus en plus de l'ampleur. Moi, je crois qu'il y a tout intérêt qu'on s'y penche sérieusement pour avoir une structure dans la police, en civil, qui sera chargée justement à faire des représailles pour arrêter tous ces gens-là qui continuent à faire des violences à la femme.
Donc, vous prenez des mesures exemplaires. Est-ce que vous êtes prêt à... Enfin, est-ce que la population sera prête à accepter ces mesures, des mesures assez dures pour donner un exemple aux violeurs?
Ah oui, mais vous savez, les viols n'est pas autorisé à travers le monde. Pourquoi notre pays doit être comme si nous étions un bastion de viols? Parce que vous savez, tout cela, je l'ai dit, je prends par exemple l'exemple de la ville de Kinshasa ou Lubumbashi. Parce que les Lubumbashi, province orientale, je dis, ce sont des provinces qui copient Kinshasa. Donc Kinshasa, des fois, donne de la mauvaise exemple, de mauvais exemple plutôt à toutes ces provinces-là. Parce que vous verrez tous ces petits gens chahés ou quoi, vous les retrouverez là-bas. Et vraiment là, je vous dis, Kinshasa contamine et détruit les restes de l'arrière-pays. Je pense, si vous prenez tout ce qu'on a comme des petits bars qu'on appelle cousu à travers la ville, il n'y a pas de représailles pour ces tenanciers-là. Donc, de ce côté-là, allez pas à l'Afrique le soir, vous verrez. C'est vraiment un air réservé à tous ces gens-là qui font ce genre de pratiques. Je pense que le pouvoir public a tout un fait d'abord à discipliner les Kinois et l'arrière-pays va facilement suivre. Donc, moi, je préfère qu'il y ait des mesures très fortes, alors très fortes pour ça. Pourquoi ne pas avoir des chambres foraines pour ce genre de personnes qui commettent ces dévies?
Le ministre a dit, oui, Okakura, des droits humains, prenez justement ces mesures. Il y aura des chambres foraines à travers le pays pour juger sur place les auteurs de viol.
Oui, je l'encourage qu'il les passe au Conseil des ministres. On aimerait vraiment que son excellence nous suive dès les vendredis prochains qu'on ait quand même cette résolution du Conseil des ministres. Je ne vois pas quel est le ministre qui va refuser une telle décision. Mais il est grand temps même au niveau de la police, tous les autorités provinciales qui sont la radio papier, qu'il y ait déjà une unité, que les secrétaires généraux coordonnent une unité anti-viol faite à la femme. Parce que nous avons pris beaucoup d'engagement avec les objectifs du millénaire, entre autres la protection de la femme. Mais jusque-là, rien ne fait chez nous. C'est comme si la femme est sacrifiée malgré les discours que les politiques lancent. Donc il est grand temps que des mesures exemplaires soient données. Ces mesures-là ne doivent pas différencier les catégories de personnes parce qu'il y a aussi pratiquement parmi certains responsables de ce pays qui se donnent à ça en suivant des petites filles qui sont en troisième, quatrième, cinquième. Et il faut aussi interdire l'habitude qu'ont maintenant les musiciens à chanter certains établissements d'enseignement primaire et secondaire qui ne sont pas habilités. Et là aussi, c'est aussi encourage à ce que tous nos jeunes filles qui vont là-bas croient que les choses sont plus faciles. Voilà.
Siméon, on vous garde encore dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous nous excusons parce que nous avons quelques petits problèmes au niveau du téléphone. Nous n'arrivons pas à joindre certains auditeurs que nous sommes en train d'appeler. Donc, il y a quelques petits problèmes au niveau du téléphone. Nous nous en excusons. Cela ne dépend pas de nous. Je vais lire quelques mails, Siméon. Vous êtes à Kinshasa. D'abord, avant de lire quelques mails, Siméon, mais est-ce que ces viols, s'ils sont de plus en plus fréquents en République démocratique du Congo, est-ce que ce n'est pas parce que en RDC, dans certaines tribus ou dans certaines provinces, la femme est banalisée. Elle n'est pas du tout considérée.
Ben, il y a d'abord ça aussi comme élément, mais je prends l'exemple de la province de Bandundu. Est-ce que la femme est banalisée? Enfin, je suivais les informations hier à la radio Capi. Il y a trois responsables au niveau de la province qui sont impliqués dans ces violences-là. Voilà un exemple justement pour le ministre à construire déjà une chambre foraine pour ça. Parce que banaliser la femme, oui c'est vrai, la femme là était toujours et à longtemps, mais au fait, dans les années 80, 79, voire même 90, on n'a jamais eu cette ampleur qui prend ce CEO. Mais depuis la guerre, depuis l'occupation, Je dis la femme de l'Est. Moi, je parle pratiquement de la femme parce que là où souvent je fais souvent mes voyages de service à l'Est. La femme de l'Est est un peu traumatisée, c'est pourquoi des fois il cède. Elle cède plutôt par peur, je me dis. Ça, je me dis peut-être, mais il faut la protéger. C'est la protéger, il faut justement cette structure-là à travers la police. Pourquoi pas l'armée?
Merci. Merci, Siméon. Je vais lire, je vous garde encore dans cette émission, Siméon. Je vais lire cette mail que nous avons reçue. Il y a par exemple Mike qui nous a écrit des États-Unis d'Amérique. Il dit, je suivais l'intervention de monsieur le ministre des droits humains, monsieur Oupio Kakura. Je dirais qu'il y a dans ces propos des échappatoires parce que la RDC n'a pas été créée aujourd'hui. L'impunité est la conséquence de l'absence de l'autorité de l'État, des guerres également, et la conséquence des guerres également, ainsi que la justice du plus fort. Merci, Mike, de nous avoir écrit des États-Unis d'Amérique. Il y a aussi Richard qui dit ceci, avouez que tous les gouvernements qui se sont succédés en RDC sont incapables de rétablir la morale dans ce pays. Nous sommes incapables de rester dans nos salons, en famille, à cause des scènes qui violent, on fait la promotion des antivaleurs pour enfin se contredire en publiant des lois inutiles. Toutes les pour lui, pour Richard, qui ne nous dit pas d'où il nous écrit, toutes les dimensions doivent être prises en compte et non embrouiller la situation qui est déjà insupportable. L'histoire nous jugera, nous ne sommes pas des blancs, nous avons nos propres valeurs. Fin de citation. Merci à Richard de nous avoir écrit. On va conclure avec vous rapidement, Siméon. Quelles mesures finalement prendre rapidement pour faire baisser ce niveau des viols qui atteint quand même des proportions assez élevées en République démocratique du Congo?
Oui, la mesure à proposer au niveau national, je ne parlais pas au niveau provincial parce que là, ça risque d'être de la compétence des gouvernements provinciaux. Au niveau national, il faut qu'au niveau de notre police nationale, une structure bien structurée, fouillée, qui ont pratiquement tous les moyens possibles de la répression contre les violences faites à la femme.
Merci.
Et il faut qu'on vote une loi, qu'on renforce peut-être la loi existante pour augmenter, pourquoi pas, la peine. La peine de tous ces violences, tous ces gens qui font ces violences à la femme.
Merci.
À ce moment-là, comme on a fait avec les Koulouma, je pense.
Merci. Oui, on a compris comme on a fait avec les Koulouma les gangs. Merci, Siméon, d'être intervenu. C'est avec vous que nous terminons cette émission.
Allô? 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 Il ne répond pas?
C'est par ici que nous terminons cette émission qui a été faite en collaboration avec l'unité des Nations Unies chargée de la formation, de l'appui aux institutions et de l'éducation aux droits de l'homme, qui bat en sigle en anglais. Nous allons nous retrouver demain à partir de 10h heure de Kinshasa et 11h à l'est et au centre du pays. Nous débattrons avec vous des problèmes liés à l'héritage, problèmes qui divisent certaines familles congolaises. Réagissez dès maintenant en envoyant vos points de vue au 09 98 999 222 et par internet à l'adresse pa.paroleauxauditeurs@radiookapi.net. Kikin Koutou et Piero et Lamiji vous ont préparé cette émission sous la coordination de Ben Kabamba, Dieu de Nyangaza et à la mise en onde. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.